Soyez les bienvenus à l'écoute des messages Vie d'Alliance de l'évêque Alexandre Amazou. Si vous êtes béni, contactez-nous au www.abmci.net ou au 2241 75 53. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Que ton année soit parfaite. Tu sais, une année qui commence est une année qui s'ouvre. Dans le monde spirituel, il y a des portes qui s'ouvrent. Et je vous ai dit que le son, les sons changent. Le son de 2010 n'est pas le même son que 2011. Dans le monde spirituel, il y a un autre son qui se fait entendre. Et à chaque année vient avec ses temps et ses saisons. Chaque année vient avec ses défis parce qu'une année est planifiée. Dans le monde spirituel, on n'entre pas dans une année comme on entrait dans un marché. C'est les portes qu'il faut posséder. Alléluia. Il dit porte et le nouveau linteau et que l'éternel roi fasse son entrée. Et pour tous ceux qui n'étaient pas là durant les préparatifs de 2011, on a vu beaucoup de choses. On a vu des stratégies, on a vu comment préparer l'année. Nous sommes dans cette année. Également, il va falloir ne pas perdre de temps parce que 2011 est en train de finir. Janvier va finir bientôt. Il ne faut pas rester là et croire que les choses vont venir. L'avenir, frères et sœurs, et c'est des choses importantes que tu dois retenir et écrire ça en rouge. Personne ne te donnera ton avenir sur un plateau d'or. Il faut que tu ailles chercher ton avenir. L'avenir est quelque chose qu'on va chercher. On n'attend pas à ce qu'on vienne comme ça pour te faire. On dit voilà, ton avenir, tu veux être quoi dans la vie? Voilà, tiens, ça c'est pour toi. Personne ne le fera. Au contraire, la vie va te combattre. Et nous connaissons des hommes qui sont partis de rien que Dieu a élevé parce qu'ils ont décidé un jour de faire quoi? De changer les choses. Et j'ai dit, lorsqu'un homme décide de changer, les choses changent avec lui autour. Tant que le changement n'est pas décidé, il ne peut pas avoir de changement autour de toi. Donc, il ne faut pas attendre à ce qu'un tonton vienne et te dise, bon, j'ai un poste dans une société, est-ce que tu as envie de travailler? Non, ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous avez un ennemi. Un ennemi qui veille. Un ennemi qui a juré que jamais la volonté de Dieu pour ta vie ne s'accomplira. Et cet ennemi est connu. C'est le diable. Dites amen. Et il ne faut pas vous leurrer. Ceux qui disent souvent, oui, mais Satan, oui, Satan est vaincu. Mais c'est un ennemi qui est vaincu, mais qui ne reconnaît pas sa défaite. Tant qu'il n'a pas en face quelqu'un qui sait et qui sait et qui sait qu'il est vaincu. C'est quand il sait que tu sais et que tu méprises les rouages de sa défaite qu'il est obligé de dire ça c'est l'initié, on ne peut pas le blaguer, mais on prend tes affaires et partir, alléluia. Mais quand il sait que tu ne sais pas ou que tu sais vaguement qu'il est vaincu, alors il va te demander de lui démontrer qu'il est vaincu, parce qu'il va s'opposer à toi. Maintenant à toi de lui faire la démonstration. Mais n'ayant pas les secrets ou la compréhension des choses cachées, ça va être difficile. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible dit la grâce est multipliée à un homme par la connaissance. Amen. Ici, ça veut dire quoi? Ici, lorsqu'on dit la grâce te sera multipliée par la connaissance, il ne s'agit pas de la grâce en tant que grâce quand on dit faveur de Dieu. Il s'agit ici d'une capacité de pouvoir. C'est-à-dire, plus tu sais, plus tu deviens fort. Donc, le pouvoir de Dieu augmente dans la vie d'un homme proportionnellement à la connaissance qu'il acquiert d'une situation. Alléluia. Parce que même sur la mort et la résurrection de Jésus, les gens ne savent pas tout. Beaucoup de gens savent que Jésus est mort et ressuscité. C'est un slogan. Mais combien de personnes réellement, par leur vie, bénéficient au quotidien de la mort et de la résurrection de Jésus? Ça, c'est une autre question. Mais cela vient également par la compréhension des vérités cachées dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi il a dit de Pierre, il dit, tu es béni, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé que je suis le Christ, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et sur la révélation que tu as reçue de moi, de ce que je suis le Christ, je bâtirai mon église. Donc, apparemment, c'est banal de venir dire, tu es le Christ. Ça veut dire quoi, tu es le Christ? Tu es quoi? Mais c'était banal aux yeux des autres, mais pour Jésus, ça va être la profondeur. Parce qu'on demande, qui dit que je suis? Les gens disent quoi de moi? Quelle est mon identité? Tu es le prophète, tu es ça, il dit tu es le Christ. Et Jésus bâtit sur cette révélation-là toute une église. Ça veut dire quoi? Le mot Christ, tu es le Christ là, si tu as compris, tu as tout compris.
Amen. Tu es le Christ, fils du Dieu vivant.
Il dit, waouh, qui t'a dit ça?
Amen. Réussis sa vie. Vous savez, j'ai compris une chose, c'est que le succès n'est pas quelque chose de mystérieux. Le succès n'est pas quelque chose qui est hors de portée. Tout être humain qui veut réussir, peut réussir. Dis amen plus fort.
Amen.
Tout être humain qui veut réussir, peut réussir. Le succès n'est pas quelque chose de difficile. Dans le fond, ce n'est pas quelque chose de difficile. Mais pour réussir, il faut avoir des informations. Parce que si tu manques d'un certain nombre d'informations, quelle que soit ta bonne foi, tu vas échouer. Et beaucoup de gens échouent malgré leur bonne foi. Mais ma prière pour toi, c'est que je ne veux pas que tu échoues encore en 2011. Parce que tu n'as pas le droit d'échouer. Dis à ton frère, tu n'as pas le droit d'échouer. Tu sais, le monde compte sur toi, l'église compte sur toi, Jésus compte sur toi. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, dans le corps de Christ en général, on n'a pas beaucoup de gens riches. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, un ou deux sont riches. Tout le monde est derrière eux. Les pasteurs sont comme des mendiants derrière eux. Les fidèles, on n'en parle pas. Il y en a même qui disent, je suis à ton service. Mais en réalité, là, à ton service, là, c'est pas parce que mon frère, tes yeux sont beaux, hein. C'est parce que tu leur donnes des 1000 francs, des 5000. Ils sont prêts à dormir même là, à attraper ton sac, à courir. Et toi, tu vas tous dans des hypocrites. Attends, un jour, on va dire oui, la sœur, on te dit, ah, ma sœur, Dieu a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes noces. Il va sortir tous les versets qu'il ne faut pas sortir. Mais là, il te suit, là, il n'y a pas mauvaise compagnie, hein. Dès que tu as un problème, il dit, ah, il ne faut pas que ton onction de problème me contamine. Les chrétiens ont beaucoup de théories. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens riches. Et quand quelques-uns s'en sortent, tout le monde est derrière eux, tout le monde veut les abattre. Tout le monde veut prendre. Et à un moment donné, ils finissent par s'affaisser. C'est pourquoi il faut encourager les gens qui sont à un certain niveau. Alléluia. Au lieu de chercher à les dépouiller seulement.
Amen.
Est-ce qu'on veut dire amen?
Amen.
J'ai enseigné ici une fois sur, l'année dernière, sur les sept étapes pour pouvoir entrer dans une boisson abondante. J'ai dit deux choses essentielles également que je vais vous citer ce matin. J'ai dit, pour quelqu'un qui va entrer dans une boisson essentielle dans sa vie, ce sera quelqu'un qui doit apprendre à respecter la loi du donner. La loi du donner, donner. Donner est quelque chose de divin. Donner n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça de faire. C'est quelque chose de divin. Un homme qui n'a pas reçu ça est un homme qui ne sera pas un véritable donneur selon Dieu. Mais donner n'est pas suffisant. Je le dis. Parce que beaucoup de gens pensent que, et c'est souvent les pasteurs, tu sais, les pasteurs, moi je le dis, hein, mon rôle c'est de vous enseigner et de vous dire la vérité. Vous prenez cette vérité. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire va à un niveau où on va arriver à un point dans la vie de l'église où les chrétiens ne vont plus tolérer la médiocrité. Si tu es un pasteur, tu veux les doubler, là, ils vont t'attraper dessus. Je veux dire, au temps où tu peux venir blaguer les gens, matin, midi, soir, venir blaguer les gens, raconter ta vie, dis ce que tu penses, hein, c'est en train de passer en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vont voir l'église vider. Il y a des prophètes, des prophétesses, des gens. Pourquoi? Parce que tu sais que tu ne peux pas maintenir des gens dans l'esclavage pendant longtemps.
Amen.
Tu parles tous les matins, tu dis rien de bon, tu dis oui, il y a deux personnes ici, il y a trois personnes ici, il y a lui là. Tu as dit ça sur un an là. Un an où tu n'auras plus rien à dire. Parce que quand tu as dit tout le monde a mangé, ok. Quand tu as dit tout le monde a eu des problèmes, ok. Quand tu as dit tout le monde a. Parce que dans tous les cas de figure, ce que vous devez retenir et qui est important, la prophétie est quelque chose de très essentiel dans le sens où elle donne de la direction. Mais quand vous lisez la Bible, c'est très important, vous allez voir que c'est souvent pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire que plus un homme apprend à connaître Dieu, plus il est difficile pour lui d'admettre qu'on lui dise « va ici, va là ».
Amen.
Un homme qui est toujours sous tutelle. Le Seigneur me dit que si tu vas m'attendre, non, c'est simplement que ça passe plus.
Amen.
Ça passe pour les bébés. Mais la Bible dit à un moment donné, l'onction vous enseignera toutes choses. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des maîtres ou des pasteurs qui te donnent de la direction, qui t'enseignent. Mais ça veut dire que l'essence, le pasteur vous donne des informations, mais c'est Dieu qui vous fait des révélations.
Amen.
La plupart de ce que je vous dis là, c'est Dieu qui me le dit personnellement à moi. j'ai des informations générales, je peux venir ici tout de suite, on peut parler, ou bien quelqu'un peut donner une information, venir parler, et puis tout à coup mon esprit s'ouvre sur un point donné, et puis j'entre dans cette direction-là, et puis je scrute. C'est Dieu qui fait cela. Vous comprenez? Donc, vous devez grandir. Et ce qui est éternel, qui a été au commencement et qui sera la fin, c'est la parole. Est-ce qu'on peut lire la parole? C'est pourquoi la parole doit faire figure d'autorité dans tout ce que vous faites. La parole doit être l'essence, l'essentiel, le commencement et la fin. Parce que quand tout sera passé, la parole va demeurer. Et ça, je voulais vous encourager. Parce qu'un chrétien qui est un bébé spirituel, qui il ne sait rien ou qui n'a aucun fondement biblique, est un chrétien vide, est un chrétien qu'on pourra balancer. Vous allez voir que les vrais hommes de Dieu, assis dans la parole de Dieu, sont des hommes qui opèrent dans tous les domaines spirituels. Ils sont dans le prophétique, ils sont dans tout. Mais leur façon d'opérer dans le prophétique, moi par exemple, j'opère beaucoup dans le prophétique, mais tu peux ne pas le savoir. Parce que je n'ai pas besoin de te dire, ainsi parle le Seigneur. Non, mais je peux donner une instruction très claire que Dieu me donne. Dieu ouvre mes yeux souvent sur des situations trop précises. Mais tout ça également en rapport avec la parole de Dieu comme fondement. Alléluia. Parce que tout ce qui est en dehors de la parole n'a pas, ne peut pas subsister. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Ça veut dire que si c'est la parole qui a tout fait, c'est la seule parole qui peut tout défaire. C'est essentiel la parole. Dieu a créé tout par la parole au départ, y compris toi. Faisons-le, il a parlé d'abord. Voilà pourquoi c'est essentiel la parole. Tout le monde est avec la parole. Réussir 2011 va nécessiter que tu reviennes également à la parole. C'est un point essentiel. Hein? On le dit souvent à les gens. Pourquoi? Pourquoi que les gens qui n'ont pas vraiment un fondement dans la parole de Dieu, à un moment donné, ils perdent la foi. Non, ils sont chrétiens, mais ils ont perdu la foi. Ça veut dire quoi? Ils sont chrétiens. Mais quand tu les écoutes parler, ça tient sur rien. Et il y en a beaucoup. Souvent, j'écoute des gens parler. Quand ils te font des démonstrations, quand ils te disent des choses, tu es stupéfait. Tu te dis, mais quelle école ce monsieur a fait? Où il a été enseigné? Il dit, oui, bon, voilà, Dieu, on va faire. Et tu sais, souvent, l'ignorance, c'est pire que la peste. Parce que l'ignorance peut te conduire droit dans le mur. Est-ce que tu sais que, même par ta façon de parler, quand tu ne connais pas la Bible, peut raccourcir tes justes. Mais je vois des gens qui parlent. Il dit oui, si Dieu le veut, si je vais, si... mais quand ils parlent, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire des ouvertures. Pourquoi? Parce qu'on leur a toujours, bon, on a toujours dit, bon, c'est Dieu qui décide, dans tous les cas de figure, c'est Dieu qui a décidé. C'est comme une soeur qui est venue me voir et me dit, ah, pasteur, vraiment, il y a longtemps, hein? Elle dit, quelqu'un qui a prophétisé, qui a dit, elle est enceinte, et dit, je veux l'enfant mort. Et quand on lui a dit ça, elle est l'enfant mort dans son ventre. Elle est l'enfant est mort. Je lui dis, mais. Et puis après, elle dit, vraiment, la dame qui a prophétisé, elle est puissante. Elle dit, non. J'ai dit, au contraire, elle n'est pas puissante. Parce que la prophétie, c'est quoi? Bon, peut-être un jour, on va arriver dans les détails, dans l'enseignement, pour aider les gens à comprendre. Quand Dieu parle, c'est pour rectifier. C'est-à-dire, Dieu ne parle pas pour que la chose arrive. Quand Dieu, la Bible dit, la prophétie fait quelque chose. Elle exhorte, elle instruit, et puis il ne faut pas être consort. Elle est tranquille. Donc, je vais dire un peu, exhorte, console et puis édifie. Donc, ces trois éléments-là doivent toujours vérifier. Dieu ne parle pas s'il n'est pas prêt à changer la situation. Quand il ne veut pas changer, là, il ne parle pas. Mais quand il parle, ça veut dire que la chose peut changer. Mais si la chose ne change pas, ça veut dire que quelque chose n'a pas été fait. Et la personne qui a reçu la révélation, elle est responsable. Parce que Dieu ne te montre pas quelque chose pour que ça arrive, mais pour que tu te tiennes dans la brèche. Et l'un des signes essentiels également, c'est que tout ce qui est prophétique ou tout ce qui est exact n'est pas forcément de Dieu. Parce qu'on a vu les devins dire des choses exactes, même dans la Bible. Paul, lorsque cette femme qui avait l'esprit de Python a dit exactement, celui-ci est un serviteur de Dieu, écoutez-le. Mais Paul n'a pas apprécié le fait qu'elle ait dit ça. Mais c'est aujourd'hui. Tu vas lui continuer de crier. Parce qu'elle parle bien de moi. Celui-ci est un grand homme de Dieu. Écoutez-le. Quelqu'un dit ça demande la ville. Celui te donne le micro, on n'entend pas bien. Mais il dit non, ferme ta bouche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole qu'elle disait, c'est l'esprit qui est derrière la parole.
Amen.
C'est pourquoi fais très attention. Dieu peut te dire des bonnes paroles. Mais au-delà des bonnes paroles, tu te dis, c'est l'intention qui est derrière. Et il y a beaucoup de flatteurs. Quand tu as un peu de truc, on te dit, oh, tu es formidable. Mais quand Dieu te révèle l'esprit qui est derrière, là, il faut te méfier. Ne prends même pas sa parole au Seigneur.
Amen.
Et donc, Dieu veut que l'église soit prospère. Mais il y a peu de chrétiens prospères. Voilà pourquoi l'église est faible. L'église est faible parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Et on peut faire des choses, on ne peut pas. On peut changer la Côte d'Ivoire. Frère, si Dieu nous bénit maintenant là, on peut faire des choses dans cette Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas quelqu'un. J'ai dit ici, j'ai dit que si on a l'argent là. Un jour, les journalistes sont venus m'interroger. J'ai dit, vous n'avez rien vu encore. Ils disent, pasteur, on voit des panneaux. J'ai dit, vous n'avez rien vu. Vous avez vu trois panneaux. Je leur ai posé la question, pourquoi vous voulez que les sociétés de cellulaires, toutes ces choses là, fassent la publicité partout? Nous fatigue ici. Et quand on mène une affiche pour dire Jésus-Christ est Seigneur, vous trouvez que où on trouve l'argent? J'ai dit, vous avez, si on a l'argent, on va remplir tout habitant de ton pari à Jésus. On pointe le doigt sur toi comme ça. On met le panneau sur ton doigt. Les gens vont se fâcher pour dire, mais c'est pas cela, nous fatigue. Mais c'est pas grave. On remplit la télé, un pays les remplit l'argent. Non. Si tu veux faire, Carambini ne faisait pas des trucs sur la douleur, il paye. C'est une question d'argent. L'église peut battre, mais il faut que l'église arrive à un certain niveau. C'est pourquoi, frère, prospérer n'est pas une option. C'est obligatoire.
Amen.
Tu penses que tu as le choix de rester comme ça et puis. Non, tu dois réussir. Dis amen.
Amen.
Et quand quelqu'un a réussi, il faut l'acclamer. On est jaloux. Dis-moi. C'est possible. Lisons Genèse. On va pas être long. Je vais te faire voir trois points importants ce matin. Genèse 1, verset 26. Et puis Genèse 2, verset 1 à. Et à 7, oui. 1, 26, vas-y.
Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer,
oui.
Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Amen. On va s'arrêter là. Vas-y, Genèse 2, verset 1 à 7.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre,
mm-hmm.
et toute leur armée.
Mm-hmm.
Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant.
Donc nous parlons ce matin de réussir son année. Et tu dois réussir cette année-là. Tu n'as pas le choix. Bien au fait, il faut que tu réussisses. Même si tu avais déjà de l'argent, tu dois doubler ça par toi. Je te dis, il faut que tu doubles ton niveau. Donc tout à l'heure, j'avais dit que l'année dernière, j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé de donner. Et puis j'avais dit quoi encore? Pour pouvoir multiplier, j'ai dit il faut donner. Donner est important, mais donner n'est pas suffisant. Il faut aussi épargner. J'ai parlé de donner et épargner. J'ai parlé de donner dans le sens où donner active un principe spirituel. Épargner est également important parce que l'épargne te permet de saisir des opportunités. Parce que dans la vie, il y a des opportunités que Dieu va te présenter qui ne viendront pas deux fois. Mais si au moment où l'opportunité se présente, tu n'en as pas pour saisir, elle passe. Tu vas aller demander crédit, quelqu'un va te donner. Parce que lui aussi, il a gardé son arrière pour faire quelque chose. Donc, j'ai dit qu'il était important d'enseigner à l'église de donner. Mais également enseigner aux gens à épargner. Parce que nous, les pasteurs, souvent, on n'enseigne pas beaucoup l'épargne. Pour qu'on se dise, ah, si tu enseignes l'épargne, les gens ne vont pas donner, hein? Non, ça, c'est une œuvre de la sorcellerie. Il faut pouvoir, parce que tu ne peux pas. Non, je te le dis. Parce que si on vous dit seulement donner, tu vas donner ce qui est important, parce que ça va t'amener la bénédiction de l'Éternel. C'est vrai. Mais une bénédiction a toujours trois parties. Est-ce qu'on bénit trois parties?
Non.
Dis ça plus fort.
Ouais.
partie.
Ça veut dire quand Dieu te bénit là, il faut toujours retenir que dans la bénédiction que tu viens de recevoir, il y a toujours trois parties. Numéro 1, il y a la part qui revient à Dieu, qui va retourner vers lui dans le donné. Dieu m'a béni, je me donne à Dieu. Je bénis son œuvre, je bénis son serviteur, tout ce que tu veux, tu bénis. Deuxième partie, c'est la partie qui revient à toi-même. Tu dois manger et tu dois être bien. Dis amen. Parce que la pompe, le robinet qui t'envoie l'eau là, c'est lui qui est mouillé d'abord. C'est vrai ou faux? Avant que ta gorge soit mouillée, c'est lui qui est d'abord mouillé. Mais c'est au moins lui qui t'envoie de l'eau. Donc le canal est toujours mouillé avant celui qui reçoit. Donc, quand Dieu te bénit, toi qui as été la source de la bénédiction là, numéro un, quand tu donnes à Dieu là, deuxième chose c'est toi d'abord. Tu dois être bien, manger bien, rouler bien, faire tout ce que tu veux. Si quelqu'un est fâché, c'est son problème. Maintenant, la troisième partie revient à l'épargne. Donc, dans la bénédiction, il y a la partie interdite qui est ta dîme et puis tes offrandes à Dieu. Ça, c'est la partie qu'on ne touche pas. Mais quand tu as fait tes offrandes à Dieu, tu as aidé l'œuvre de Dieu, tu as fait ce que Dieu t'a mis à toi de faire, tu as payé ta dîme et tout, le reste là, tu vis de ça. Tu manges, tu t'habilles bien, tu vas à l'école, tu fais ce que tu as fait. Et puis, il y a une partie qui est épargne. Pourquoi? Parce que Dieu va mettre des occasions autour de toi qui vont nécessiter que tu aies de l'argent pour changer ton niveau. Je t'assure, même les gens que vous voyez qui sont aujourd'hui très puissants, milliardaires, on ne devient pas milliardaire comme ça. Dans l'air, on devient milliardaire quand on sait également épargner. Il n'y a pas un homme riche qui n'est pas quelqu'un qui épargne. Hein? Qui investit. Quand je parle de pas, je parle de. C'est-à-dire, quand on parle de pas et d'investissement en même temps, hein, je lis les deux. Pas de les garder parce que le garder c'est pour saisir des occasions pour augmenter son niveau. Sinon tu vas descendre un jour. Et la volonté de Dieu c'est que tu ne descendes pas.
Amen.
Mais que tu sois toujours plus fort et très 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 fort. De telle sorte que tu arrives à un point pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement sur destiné à venir, il faut payer tout. Il y a 5 enseignements dessus. Il faut payer ça. C'est un enseignement très fort. Pour que tu arrives à un point où tu sais. Un homme riche, là, c'est pas un homme qui calcule. Tu arrives à un point où on ne peut plus discuter avec toi.
Amen.
Ça dit même qu'on te prend 10 millions, tu sais quoi.
Amen.
Tu es fort. Amen. Mais quand on te prend 5 000 et puis tu sais, là, tu n'es pas encore fort. Dis amen. Dieu va te mettre au large. Dis Dieu va me mettre au large. Et c'est la volonté de Dieu. À un moment donné, ce ne sera plus toi. Je vous ai, et là, on a vu également ce point, on en a partagé ici à longtemps, mais je vais revenir là-dessus, sur les différents points pour arriver à un certain niveau, où on a vu quoi? Que tu arrives à un point où tu as tellement investi que tu travailles plus que ton âge, par exemple. Parce qu'un homme riche, ce n'est pas un homme qui travaille. Mais il arrive à te dire, travailler, c'est une étape de l'âge. Mais tu as travaillé toute ta vie sur toi. Et vite. Mais tu arrives à un point où tu as tellement investi. Que maintenant, tu ne travailles plus pour l'argent, mais l'argent travaille pour toi. Donc tu dors et puis l'argent travaille. Pendant que tu dors, tes comptes travaillent. Pendant que tu dors, tes affaires marchent. Pendant que tu dors, les gens signent des contrats et puis on t'envoie.
Amen.
Sinon, tu ne vas pas vivre longtemps. Tu vas travailler, travailler, travailler. Le temps de profiter, tu es déjà vieux, tu as mal au dos, tout, tu es gravaté. Et puis, tu vois les gens retraités, on dit 60 ans, le gars ne tue pas le pauvre. Sa maison, mais il n'a même pas encore fini la peinture. Tout ça, c'est compliqué, le gars n'est pas avant. Donc, il y a un temps pour bosser dur, et puis il y a un temps où Dieu veut que tu arrêtes pour commencer à te reposer. Mais quand Dieu a travaillé avec le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et on dit quoi? Il s'est reposé de quoi? De ses œuvres. Donc, on se repose de ses œuvres. Regardez comment le verset est construit.
qui se repose de ses œuvres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déconnecter, se reposer à ses œuvres. C'est-à-dire, sur moi, ce sont tes œuvres qui te donnent du repos. Je prie que tes œuvres te donnent du repos. Parce que quand tu n'as pas d'œuvre, tu ne peux pas avoir le repos. Quel repos tu as? Dormir. Le vrai repos là, c'est pas aller se coucher dans la chambre. Les gens, vous savez, ceux qui dorment là, qui appellent ton cauchemar dedans. Hein? Demandez aux gens qui font aller, qui dorment la tête et qui sont assis, ils aiment ça. Il n'y a pas un repos dedans, tu finis de te lever, tu as beau de tête. Parce que tu as passé ton temps à pleurer, à dire comment je vais avoir ce boulot, comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour aller à l'église, je vais pas là. C'est pas un repos ça. Vrai repos là. Quand tu mets ta tête comme ça, t'es sûr que. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Donc on dit Dieu fit la création. Et qu'est-ce qui se passe ici? Observez ici. Dieu, pour faire la création, donc va s'adresser à trois sources. La Bible dit quoi? Pour créer les arbres et tout, il s'adresse à la terre. Ensuite, pour créer les animaux, il s'adresse à la terre. Première source. Donc la première source ici, où Dieu va pour la création, c'est la terre. Quels sont les éléments qui sortent de terre? Il y a les arbres, arbustes, tout ce que vous pouvez voir comme verdure, et puis les animaux. Donc, on peut admettre que l'origine des animaux, c'est la terre. L'origine des plantes, c'est la terre. Voilà pourquoi les arbres et les animaux sont attachés à la terre. Deuxième source, la Bible dit qu'il s'adresse aux eaux. Il demande aux eaux, il dit que les eaux produisent des poissons et des animaux marins. Donc, pour créer tout ce qui est aquatique, tout ce qui est les crabes de mer, les quoi, que vous connaissez là, que vous mangez les crevettes, Dieu s'adresse aux eaux. Il dit que les eaux produisent, et les eaux produisent. Ensuite, pour créer l'homme, Dieu s'adresse à qui? À lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu s'adresse à trois sources majeures pour faire la création de l'humanité. D'abord, à la terre, pour les arbres, les arbustes, la verdure et les animaux. Deuxième source, aux eaux, pour tout ce qui est poissons, marins, les animaux marins, tout ce qu'on voit, baleines, tout ce qu'on peut savoir qu'on peut trouver dans l'eau. Alléluia. Ensuite, pour l'homme, il s'adresse à lui-même. Donc, trois sources. Maintenant, on remarque ici que chaque élément créé est attaché à sa source. Les arbres sont attachés à la terre. Les animaux sont attachés à la terre. Et le jour où on les détache de terre, ils meurent. Les poissons sont attachés à l'eau. Les crevettes sont attachées à l'eau. Tout ce qu'on peut trouver dans l'eau, si tu sors un poisson de l'eau, tu le mets ici tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter. Il va s'étouffer. En 5 secondes, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il a été détaché de sa source. Il a été créé à partir de l'eau. Il est sorti de l'eau. Il est attaché à l'eau. Et hors de sa source, il meurt. L'homme également est sorti de Dieu. Dieu est la source de l'homme. Tout homme qui sort de Dieu ou qui va loin de Dieu meurt. Voilà pourquoi il n'y a pas de salut en dehors de Dieu et loin de Dieu. Amen. Tous ceux qui vivent leur vie hors de Dieu ou loin de Dieu vivent dans la confusion et vivent dans la mort. Dites Amen. Dites Amen. Donc, le premier principe que vous pouvez retenir, c'est que tout ce qui est créé est attaché à sa source. C'est la source d'une chose qui donne la vie à la chose. Premier point. Alléluia. Maintenant, quand vous prenez le poisson est dans l'eau, c'est sa source. Quand on le sort de l'eau, il panique et il meurt. Pourquoi? Il est hors de sa source. En d'autres termes, l'avenir du poisson ou le meilleur du poisson est où? Est dans l'eau. Donc, le meilleur d'une chose est dans sa source.
Amen.
Donc si le meilleur d'une chose est dans sa source, le meilleur de l'homme est en Dieu. Le meilleur de l'homme est en Dieu. Maintenant la Bible nous dit dans Jean 1:1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En d'autres termes, le meilleur de l'homme est dans la parole. De même que le meilleur du poisson est dans l'eau, ton meilleur est dans la parole. Pourquoi? Parce que Dieu s'est investi lui-même dans sa parole, de telle sorte que désormais, il est sa parole. Donc, un homme qui a la parole a Dieu avec lui.
Et donc, l'élément fondamental ici, c'est que si tu veux réussir ton année, l'élément que tu dois considérer, c'est que ton meilleur réellement est dans la parole, ton meilleur est en Dieu. De même que le poisson dans l'eau est majestueux, c'est-à-dire à toute sa force, à toute sa, c'est-à-dire sa, comment on appelle, sa liberté et sa capacité de se mouvoir. Alléluia. Hors de l'eau, il ne peut plus rien faire. Dans l'eau, il peut tout faire. Je suis venu t'annoncer que dans ma parole, tu peux tout faire. Tu peux te mouvoir. Tu peux retrouver ton identité. Dis amen. Et donc, cette année, s'il y a une chose qui doit rester attachée à toi, c'est rester proche de cet élément-là qui est ta source. Parce que tout élément est influencé ou influençable par sa source. C'est un élément qui est fondamental. Alléluia. Donc, tu sais ce que je te dis ce matin-là, c'est pas des idées juste pour que tu sois content, hein, mais c'est une façon, je suis en train de t'amener à réfléchir et à accepter des vérités qui vont changer ta vie. Tu es sorti de Dieu. Dis à ton frère à côté de toi, tu es sorti de Dieu. Dieu est ta source. Ton avenir est en Dieu. Ton avenir est en Dieu. De même que le poisson a son avenir dans l'eau. Ton avenir est en Dieu. Ton avenir est dans sa parole. C'est dans la parole de Dieu que tu peux te retrouver. C'est pourquoi cette année, je veux te challenger à ne pas rester loin de la parole de Dieu. Parce que trop de gens sont restés trop loin de la parole. Quand ils parlent, la parole n'est même pas dans leur bouche. Quand tu raisonnes, la parole même est loin d'eux. On dit, mon frère, ça va, il dit, oui, ça va. La vie est dure, bon, c'est debout. C'est-à-dire, tu peux parler avec lui 30 minutes et puis observer qu'il prend appui sur la parole. Non. Dans une heure de discussion, tout ce qu'il va te raconter là, ça passe, ça rentre. Mais Dieu n'est pas au cœur. Pourquoi? Ce n'est pas un homme fondé et enraciné dans la parole.
Amen.
Mais que peut faire quelqu'un hors de sa source? Rien du tout. Voilà l'une des raisons pour lesquelles l'Église a un visage qui n'est pas le visage que Dieu attendait. Les païens que vous voyez dans le monde là, je vous ai dit ici un jour, frère, tu ne peux pas compétir avec ces païens là si toi tu ne t'appuies pas sur ce qui fait ta force.
Amen.
Parce que eux ils ont la force. Les Libanais que vous voyez là, quand on va te faire affaire avec eux, maintenant quand ils se lèvent là, ils vont vers quelque chose. Ils vont vers leur tout, ils font leur collier, ils font leur truc, ils font des résultats, ils ont des trucs magiques et tout. Quand ils te parlent, tu ne dois pas dire non, ils doivent t'envoûter. Mais tout ça, ils ont leur force. Et toi, tu vas dans une compétition avec des gens qui s'appuient sur quelque chose. Mais je vous ai dit ici également que ne vous trompez pas, parce que beaucoup de gens commettent une erreur. Ils pensent que la force, quand on dit la puissance de Dieu, et on dit la puissance du diable, ils pensent que ce n'est pas la même puissance. Je vous explique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alléluia. Bon, donnez-moi deux secondes. Rapidement, je vais juste. Les deux stylos, imaginez que ces deux stylos sont les mêmes. Maintenant, bon, s'ils avaient la même couleur et tout, c'était bon, hein, dans tous les cas. S'ils sont. Mais vous comprenez? Vous voyez deux bleus. Voilà. Merci. Vous voyez deux bleus. Je donne un au docteur. Je donne un à mon frère. Attrapez. C'est le même stylo. Je peux échanger, changer de. Sauf que ça est dans deux mains. Peuvent l'utiliser. Maintenant, chacun va l'utiliser. Chacun va l'utiliser. Mais n'oubliez pas que c'est le stylo là. C'est le même. C'est le même stylo. Vous comprenez? Maintenant, chacun l'utilise comme il veut. Mais ça ne rend pas forcément la pensée que je veux. Mais allez-vous asseoir quand même. Merci. Ce que je veux vous dire, c'est que le pouvoir à l'origine reste le pouvoir. Qu'il soit entre les mains du Seigneur, qu'il soit entre les mains du diable, c'est le même pouvoir. Ça dit, il n'y a pas un pouvoir supérieur
n'y a pas un pouvoir inférieur. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Mais sauf que le pouvoir dans la main des uns est plus grand que dans la main de l'autre. Mais dans tous les cas, c'est le pouvoir. Je ne sais pas si on me suit.
Amen.
Ça veut dire quoi? Dieu est détenteur de tout pouvoir. Quand Dieu s'est investi en l'homme, Dieu lui a communiqué une capacité. Dans le jardin d'Éden, il y a eu un troc. Il y a eu un deal entre le diable et Adam. Adam lui a communiqué ou lui a donné ce que Dieu lui avait donné. Et Satan a répété ça à Jésus à la montagne. Il dit, fais ça pour moi parce que cela m'a été donné. Donc Satan a donné, Adam et Ève ont donné le pouvoir à Satan. Donc le pouvoir que Satan détient aujourd'hui est un pouvoir.
Amen.
Mais le vrai problème où les chrétiens commettent une erreur, c'est qu'ils pensent que face au pouvoir des sorciers, eux, ils peuvent le terrasser. Quel que soit le pouvoir que eux détiennent. C'est pas vrai. C'est une question de pouvoir ou quantité de pouvoir contre quantité de pouvoir. Ça veut dire quoi? Si tu rencontres un chef vaudou ou un Libanais qui est dans le Mississippi, qui a un pouvoir de 100 watts, c'est pour te faire comprendre. Si toi, tu es dans l'église, tu joues avec le Seigneur et ton pouvoir est 15 watts, tu ne peux pas le déracer. Il va te vaincre. Avec tous les Jésus que tu vas sortir, il va te vaincre. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean 3, pas dans Jean 3, c'est dans Ephésiens 3, partie verset 20, il dit à Dieu qui peut faire. Écoutez, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que toi tu peux penser ou imaginer, par le pouvoir qui agit en toi. Donc Dieu, quand il travaille pour un homme, il ne travaille pas avec son pouvoir, mais il travaille avec le pouvoir que l'homme met à sa disposition.
Amen.
Voilà comment beaucoup de chrétiens se sont fait avoir. Ils vont derrière quoi? Ils disent Jésus avec moi. Jésus avec moi. Au nom de Jésus, tous les sorciers. Venez, je vous montre, moi j'ai le nom de Jésus. Mais le problème, ce n'est pas seulement avoir le nom de Jésus. Mais il faut que le potentiel qui accompagne le nom de Jésus là soit également là. Mais pour qu'elle soit là, il y a un prix à payer. Sinon, tous les pasteurs font la même chose en termes de capacité.
Amen.
On n'a pas tous les mêmes capacités.
Amen.
Pourquoi? Parce que chacun, en fonction du prix qu'il est prêt à payer, Dieu lui communique une capacité pour l'amener à un certain niveau.
Amen.
Au frère, tu peux me dire que tu es même chose avec Benny Hinn ou bien avec les gars comme Maurice Roulot. C'est le principauté. Il s'arrête là comme ça, il dit, oui mon petit papa, il parle doucement, il ne dit rien de bon, il ne suit pas la vie, il dit oui, tu es béni. C'est suffisant. Au vrai, c'est suffisant. C'est suffisant pour que tu ailles, tu dis au Seigneur, je suis sauvé. Pourquoi? Parce qu'il porte quelque chose, il a payé le prix et il a magasiné quelque chose. Donc ses paroles ne sont plus des paroles vides.
Amen.
Est-ce que les gens ont compris?
Amen.
Dans un combat sans t'assurer que tu as ce qu'il te faut. Et je ne comprends pas les gens. Voilà, j'ai dit, est-ce que tu sais, tu as bien rencontré quelqu'un qui est sorcier? Il est vrai? Non. Mon frère, il va te déstabiliser dans ta foi chrétienne. Jésus va disparaître dans ta bouche, ça va ménager. Tu as dit, Jésus! Il va te regarder comme ça. Les pieds vont
sauter.
Mais oui, si Dieu ne veut pas ton secours, il va finir toi. Souvent, Dieu oublie. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand de telles personnes sont retrouvent dans des situations et puis Dieu les sauve, ils ne comprennent pas. Dieu suscite quelqu'un quelque part qui commence à intercéder par là, il ne sait même pas pourquoi. Il dit, je me suis réveillé la nuit et puis j'ai senti le besoin de prier. Prier. Mais c'est parce que Dieu venait renfort. Parce que là, si tu es laissé, on a fini à toi. Donc il a suscité ton cœur. Pour venir au secours de ta faiblesse. Alléluia. Non, il faut se préparer. C'est Pourquoi tout ce qui est présomption n'est pas bon? C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose, tu ne te prépares pas, tu dis comment Dieu va faire. Ah, Dieu avec moi, hein? Moi là, Dieu, c'est bon, on mange ensemble. C'est quoi ça que ce qui intéresse? Tu veux faire quelque chose, prépare-toi.
Amen.
Tu vas entrer, rencontrer quelqu'un, tu sais que ce monsieur-là, il est le patron de ce dossier. Si c'est lui seul qui peut signer ce dossier-là, ça va passer. Et tu sais qu'est-ce qu'il fait, c'est un mystique. Il est dans la rose forme, dans un truc bizarre. Tu vas le rencontrer. Il ne va pas juste dire, Seigneur, je te bénis parce que ce monsieur-là. Tu vas dire, oui, quand tu as fini de confesser, il faut prendre le temps. Les versets bibliques appropriés à la situation. Commence à les réciter. Récite-les, commence à proclamer. Et puis, à chaque fois que tu mimes un verset, tu vides le verset de sa substance et puis tu déposes la capacité dans toi.
Amen.
À un moment donné, ton esprit va être tellement fortifié. Tu passes un moment de jeûne et prière. Jeûne et prière, là, je vous dis, et je vous l'ai dit, je dis, ce n'est pas le jeûne qui donne la puissance. Parce que beaucoup de gens pensent que quand ils ont jeûné, ils ont la puissance en même temps. Non, le jeûne ne donne pas la puissance. Parce qu'il y a beaucoup qui font le jeûne. Mais le jeûne te dispose. Quand on jeûne, il y a des choses qu'on ne veut plus regarder. Il y a des paroles qu'on ne peut pas dire. La plupart des gens, quand ils jeûnent, sont très spirituels. Quand tu veux leur parler, ils disent, même quand il voit un truc qu'il a envie de regarder, il fait comme il ne peut pas regarder. Donc en fait, le jeûne te dispose. Mais quand ça te dispose là, si toi tu fais rien pour remplir l'espace que le jeûne crée, ça reste vite.
Amen. Amen.
Ça veut dire qu'il te donne les dispositions. À toi, pendant le mois de jeûne, de ne pas dormir, tu dis, je dis non, j'ai plus fait mes jeûnes. Je dors sur moi, je dors, je dors. Non, de passer le temps maintenant à scruter les Écritures, à parler avec Dieu, à faire ce qu'il faut pour que la gloire de Dieu te remplisse et te permette de libérer le maximum. Donc, ouais, le jeûne dispose, mais ne donne pas la puissance.
Amen.
C'est ce que tu fais dans le jeûne, là, qui te remplit. Amen.
Amen.
Je suis la montagne. Bon, tu dis, tu es la montagne. Bon, on n'a pas ici. On ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner, il faut jeûner, c'est une très bonne chose. Dis amen.
Amen.
Je veux t'encourager à avoir des moments de jeûne et prière, c'est très important. Mais il faut savoir que ça ne se passe pas au hasard. Et puis on ne jeûne pas comme ça pour rien. Il faut avoir un objectif clair à atteindre des trucs, des sujets nets. Mais on n'est pas dans le jeûne comme ça parce que bon, oui, j'ai envie. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des objectifs. Tu entres, je vais pour ça, 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 ça. Tu pries, tu fais ce que tu as fait. On ne jeûne pas parce que bon, tout le monde jeûne. Il y a un pasteur qui a dit de toute sa vie, il a jeûné une seule fois, ça m'a choqué. Mais c'est l'un des plus grands pasteurs au monde. Il dit, lui, il a jeûné une seule fois, 40 jours. Puis c'est tout, il n'a plus jamais jeûné jusqu'à ce que. Aujourd'hui, il est mort à peine de 90 ans. Et il dit, il mange une fois par jour, donc, en tout cas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis?
Amen.
C'est pas une façon de t'aider. Si c'est ton style de vie, vas-y. Mais fais-le et fais-le intelligemment pour que ça te profite. Parce que la multitude d'activités n'est pas la preuve du succès dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont occupés pour rien.
Amen.
Donc l'occupation n'est pas une preuve qu'on a réussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils appellent je suis occupé, mais la réalité, quand on fait le poids à la fin du mois, ils ont rien. Donc c'est pas l'occupation. C'est comment maximiser sur le peu que Dieu te donne.
Amen.
C'est pourquoi le vrai succès dans la vie est plus intellectuel. C'est-à-dire, la sagesse, le travail mental paye plus que le travail physique. Sinon, comment on peut comprendre qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, on a pratiquement comme le pourcentage de planteurs. C'est-à-dire, je veux dire qu'il y a beaucoup de planteurs en Côte d'Ivoire. On peut avoir peut-être 30% de la population qui sont dans tout ce qui est. Et pourtant, tous les gens ne mangent pas le fait. Mais va dans un pays comme la France ou les États-Unis, ils ont peut-être, même pas peut-être, ils ont peut-être 1% maintenant de 1 ou 2% de planteurs. Mais les gens mangent jusqu'à manger dans la poubelle. Je veux dire, le travail physique n'est pas ce qui donne le salut, mais c'est l'efficience, c'est-à-dire la qualité dans le peu. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont intelligents. Et ils exploitent le peu là, ils font beaucoup pour tout le monde. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Alléluia. Donc, ces trois sources, il faut les retenir. Amen. Maintenant, Il y a trois éléments essentiels pour posséder ou réussir ton année. Je vais te les citer et on va les commenter. J'ai parlé d'abord de la source. Retenez un peu le raisonnement que je suis en train de vous donner. J'ai dit, quand Dieu a fait la création, il s'est laissé à trois sources. Et j'ai dit que chaque source influence ce qui est créé et que personne ne peut réussir sans s'attacher à sa source ou sans retourner à sa source. Le poisson est fort dans l'eau quand tu es fort, quand tu es attaché à Dieu. Ou ton meilleur est dans la parole. Maintenant, le premier élément que je veux te citer, c'est ce que j'appelle le but. Tout le monde dit avec moi le but. Cette année 2011, il faut que tu aies un but très clair. Tu sais, pas trop de choses en même temps. Parce que l'année, là, ne te donnera pas tout. Il y a 2012 qui arrive. Mais il y a des choses que l'année va te donner. Il ne faut pas chercher à prendre. Il ne faut pas forcer 2011 à t'enfanter ce que 2012 est destiné à t'enfanter. Tu vas mélanger les choses.
Amen.
Les gens qui sont trop pressés. Ils veulent que tout soit enfanté maintenant. Si c'est pas, ce n'est pas du ressort de 2011 de t'enfanter la chose, tu vas faire un travail de sorcier et tu ne vas pas t'en sortir.
Amen.
C'est pourquoi il faut prier Dieu que Dieu t'assigne des objectifs clairs. Il y a quelque chose que si Dieu fait pour toi, c'est bon même si l'année est terminée.
Amen.
Et c'est ça qui doit être au cœur de l'objectif et de la vision que tu dois avoir. Et qui est très clair. Tu sais pourquoi se perdre et se mélanger. Hein? Je vais vous donner, dans tous les cas, on a déjà eu une réunion dimanche dernier. On a parlé. Je vais peut-être ici les prochains dimanches vous donner une idée claire des objectifs que Dieu nous a assignés pour 2011. Parce qu'une église, vous n'êtes pas juste des participants, mais également, vous êtes des membres. Et en tant que membre, il est important de savoir où on va. Parce qu'on va ensemble. Pour que quelqu'un te suive, il faut qu'il sache où tu vas. Elle ne veut pas te suivre et puis elle ne sait pas où il va. Donc, je ne veux pas que tu sois ignorant en ce qui concerne la vision de l'église, les objectifs que Dieu a assignés à l'église et ce que nous avons à faire de façon collective en tant que famille. Parce que nous avons une récompense collective d'abord, avant une récompense individuelle pour chacun. Et ça, c'est très important et je le répète. Une église n'est pas juste une église. Dieu crée une famille. Dieu dépose cette famille-là une onction spéciale attachée à cette famille. Vous allez voir que le fait d'être membre de cette église, il y a des choses qui ne peuvent jamais t'arriver parce que ça fait partie de l'alliance que cette église a.
Amen.
Il y a des choses qui vont forcément t'arriver parce que ça fait partie de l'alliance que l'église a. C'est pourquoi quand tu es là, il faut être un membre, il faut t'intégrer, il faut participer à la vie de l'église. Ça fait partie des objectifs que Dieu a assignés à notre vie. N'abandonnez pas vos assemblées. Nos assemblées, c'est notre assemblée. L'église est la porte du ciel. Jacob a dit, j'étais à la porte du ciel et je ne le savais pas. Bethel, la maison de l'Éternel, la porte du ciel. L'église est la maison de l'Éternel, la porte du ciel. C'est ici que tu viens prendre l'essence pour la semaine. Carburant, dis
amen.
Ça ne peut pas être dans ta maison, ça ne peut pas être nulle part, même dans une cellule. Ce n'est pas possible. Dieu a fait les choses de telle sorte que la vie et l'essence qui doit t'accompagner sortent de l'autel de l'église.
Amen.
C'est pourquoi l'église locale n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser. Et tu vas voir que tous ceux qui ont tenté de banaliser l'église locale au détriment de oui, l'église universelle, on est des chrétiens, on peut se promener où on veut, ne réussissent jamais. Pourquoi? Parce que la vérité supplante toujours le mensonge. Tu vois, les gens se promènent, les gars disent non, on n'a pas église. On se balade, c'est comme ça, les apôtres se baladaient, c'est faux. Même en son temps, il y avait l'église d'Éphèse, il y avait l'église de Corinthe, Dieu a fait les choses comme ça. Est-ce qu'on peut dire
amen?
Donc le but est important. Maintenant, regardez ici. J'ai parlé de source tout à l'heure. Un homme qui n'est pas attaché à sa source ou qui ne sait pas sa source ne peut pas savoir son but. Pourquoi? Parce que quand tu sais d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Donc le but et la source sont attachés. C'est pourquoi j'ai pris le souvenir de vous dire tout à l'heure d'où nous venons, où nous avons été tirés. Nous avons été tirés de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu et Dieu est notre source. La parole de Dieu est notre source. Maintenant, si la parole est notre source, alors la parole où Dieu peut nous révéler le but de notre vie. Amen.
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 Donc le but et la source sont liés. Un homme qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Parce que d'où tu viens est très important pour qu'on sache où tu vas. Quelqu'un qui est sorti de Dieu ne peut qu'aller dans la grandeur. Parce que tu sais, tu es sorti de quelqu'un qui a une immensité sans fin. Tu es sorti de quelqu'un. Est-ce que un lion peut donner naissance à un chaton? Si, tout à l'heure, on t'envoie le petit de l'aigle avec un poussin. C'est que quand un poussin donne, une poule donne naissance à un poussin, et quand tu vois un aigle au départ, ils sont tous pareils. Hein? Mais tu vas voir que si on les met ensemble, les poussins et les petits aigles nés là, hier, yeah, ils vont marcher ensemble pour être là. Mais à un moment donné, si tu es un observateur, tu vas voir que parmi eux, il y en a qui ont toujours le visage vers la terre et il y en a qui ont toujours le visage vers le haut.
Amen.
Amen. Amen.
Parce que la poule, elle est toujours comme ça, elle est cherchée vers la terre. Mais l'aigle, lui, il a toujours le regard vers le haut. Donc, à un moment donné, la différence va se faire en fonction de leurs origines. Tu vas savoir par le comportement qu'ils sont en train d'avoir là, qu'il y a deux dedans qui sont différents. Parce que pendant que les autres regardent la terre, eux, ils sont toujours en train de sculpter le ciel. Parce que c'est là-bas leur espace. Est-ce qu'on peut dire avec? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, connaître sa source est très important pour te faire comprendre ce qui arrive. Donc 2011 ne peut être une bonne année pour toi, dans le sens où tu sais d'où tu viens. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu sais ce que je veux te dire? Je te dis, je ne suis pas en train de te dire les choses pour te faire plaisir, mais c'est les convictions que je veux que tu aies ce matin. Que tu n'es pas n'importe qui, tu es sorti de Dieu. Et quand on sort de Dieu, ça, on ne peut qu'aller vers la grandeur et l'élévation. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen?
Quel que soit ce que les hommes ont planifié, quel que soit ce que l'ennemi a décidé, tu ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la grandeur, tu es sorti du succès et tu ne peux que réussir. C'est une question de nature. C'est une question de nature. Amen. Et tu vois que les poussins là et les aigles là, à un moment donné, quand ils vont grandir, ils vont avoir tous des ailes. Mais il y a elles et puis il y a elles. Il y en a qui vont rester attachés à la terre, et puis les autres, ils vont prendre leur envol dans le ciel. Pourquoi? Tu ne peux pas empêcher ces aigles là de prendre leur envol. Pourquoi? Parce que sans faire d'effort, tu sais, quand quelque chose est en toi, tu ne peux pas pour. Attends, pour parler, tu as besoin de prier. Ou bien pour, je sais pas, donnez-moi un exemple. Pour manger, ou bien pour t'exprimer. Non, tu es comme ça. Dieu t'a créé avec des yeux, tu regardes les gens, tu apprécies les couleurs. C'est comme ça que tu as été créé. Tu es un homme. Même si tout à l'heure, là, si je te demande, tu as envie de t'envoler. Si tu me dis oui. Même si tu dis oui, est-ce que tu peux? Viens de faire, on va te mettre en dessous et puis on te jette. Tu vas descendre. Avec une force, tu vas avoir mal. Parce que tu ne peux pas. Tu as créé chaque élément avec une nature. Et ta nature délimite ou détermine ton mode de fonctionnement.
Amen.
C'est pourquoi une tortue ne peut pas voler. Même si la tortue dit, moi je vais être comme le pigeon ou bien l'aigle, il ne peut pas. Parce que sa nature ne l'empêche, ça dit, l'empêche de faire. Mais l'aigle également ne peut pas dire, moi je fais comme le poisson. Parce que il est tel qu'il ne peut pas faire comme le poisson, même s'il peut. Voyez que donc, l'origine est ce qui détermine ton mode de fonctionnement. Et un homme qui sait son origine, un homme qui sait qui il est, alors naturellement, il y a des choses que quand tu acceptes, tu les manifestes.
Amen.
Beaucoup de gens ne manifestent pas certaines choses parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Est-ce que tu sais que même les parents, les enfants qu'on voit qui naissent là, à un moment donné, ils apprennent à accepter que ce sont leurs, ce sont ses parents. Hein. Sinon, non, mais qui va dire un enfant, bébé, il n'a qu'à naître. Même dans la main d'une autre femme avec un monsieur, si on n'a jamais rien dit, il va croire que ce sont ses parents, il va se comporter comme. Mais à un moment, il découvre deux personnes, il apprend à les connaître. On leur dit, ce sont tes parents, ils t'aiment. Les parents lui manifestent que c'est un amour, il accepte. Et puis, quand il accepte que ce sont ses parents-là, qu'est-ce qui se passe? L'acceptation va faire qu'il va développer des comportements similaires.
Amen.
C'est qui voit là? Il va vouloir faire ça parce qu'on dit les choses. Les gens n'arrivent pas à réussir, à atteindre un certain niveau parce que beaucoup de gens n'ont pas encore accepté réellement qu'ils sont sortis de Dieu. C'est des choses qui sont un peu lointaines. Je suis sorti de Dieu, moi. Il a encore une conscience de ce qu'il est. Il dit, moi je me suis substitué à Kofi Koro. Mon papa s'appelle Koumi Pascal. Ma maman, Adjoa Léonti. Donc tu vois, cette conscience de ce qu'il est naturellement l'a aveuglé de telle sorte qu'il n'arrive pas à s'affranchir.
Amen.
Dis amen.
Amen.
Les gens ne sont pas encore affranchis. L'origine influence. Voilà pourquoi même vos origines naturelles vous influencent. Écoute, quand quelqu'un est là de nouveau, pourquoi on fait sa délivrance? À un moment donné, il y a des gens ici, là, tu es ce que tu es aujourd'hui à cause de tes origines. Le fait que tu es né d'un père qui a fait des alliances, qui a fait des choses, qui t'a influencé et que tu as accepté, et ce qui a fait que tu es comme ça aujourd'hui. Mais quand on est de nouveau, on fait une délivrance, on coupe le cordon. Pourquoi? Parce que nous entrons dans une autre famille. Donc Dieu veut qu'on s'intègre dans cette famille-là et qu'on accepte cette famille-là de telle sorte qu'on a été, de telle façon dont on a été influencé par notre famille d'origine naturelle. Dieu veut qu'on soit aussi influencé par notre famille d'origine spirituelle.
Amen, amen.
Mais quand tu regardes un chrétien aujourd'hui, il est plus influencé naturellement que spirituellement.
Amen, amen.
C'est une question d'acceptation. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je te dis ce matin? Tu es sorti de Dieu. Et si tu es sorti de Dieu, tu vas développer sans prier le comportement de Dieu.
Amen.
Accepte simplement que tu es comme lui. Va vers lui. Quelle est ta source? C'est la parole. Quelle est ta source? C'est la parole de Dieu. C'est là ton milieu naturel. Va dans ce milieu naturel. Recherche le Père qui t'a donné naissance. Comment il est, comment il parle, comment il agit, quel est son potentiel. Je dis sans faire d'effort, si tu acceptes ces choses, tu vas les manifester. La gloire de Dieu sera sur toi, la puissance de Dieu sera sur toi. Alléluia, les gens vont te voir te lever chaque jour. Dis amen.
Il
ne veut
pas te comprendre. Parce que tu as accepté d'être comme Dieu. Je suis comme Dieu, je ne suis pas un homme ordinaire.
Donc, c'est la source de l'homme qui détermine son but.
Amen.
Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que tu ne peux que réussir. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Le projet que tu as, dis le projet ne peut pas échouer.
Le projet ne peut pas échouer.
Mais faut pas dire ça comme si quelqu'un, tu vois, parle juste est religieux. Alléluia, je veux que tu sois convaincu que ce qu'on dit là, puisque c'est Dieu. Dieu ne joue pas, c'est Dieu échoue. Dieu ne joue pas. Jésus-Christ ne pouvait pas échouer, même dans la défaite apparente là, et la victoire. Ce n'est pas possible que Dieu échoue. Dieu, il est le commenceur, l'initiateur, le finisseur de la foi. Dieu n'échoue jamais. Je suis venu t'encourager ce matin pour te dire que tu vas achever ta course. J'ai dit que tu vas achever ta course. Dis amen avec conviction. Aucun démon ne peut te résister. Tu sais, faut même pas imaginer aucun malheur même. C'est-à-dire dans tes rêves même, malheur ne peut même pas passer à côté de toi.
Amen.
Les histoires d'accidents, les trucs. C'est-à-dire, ça ne peut même pas t'arriver.
Amen.
Pourquoi? Parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais, quand tu sais, dans le monde spirituel, ce que tu sais, réarrange les choses dans ta famille. Je te dis que c'est ce que tu sais, c'est ce que tu crois, qui apparaît en termes d'identité pour toi dans le spirituel. Ce que tu n'as pas cru n'apparaît pas dans ton fichier spirituel. Tu peux savoir les choses à Abigail ici, c'est dans ta tête. Tant que tu n'as pas cru, quand on check ton tableau spirituel, le truc n'apparaît pas.
Amen.
Tu parles à Abigail ici, mais quand on regarde dans le spirituel, ça n'est pas dans ton, dans tes caractéristiques. Il te supplie, c'est le spirituel qui fait le naturel. Et les gens disent, oh, mais il parlait comme un chrétien. Il disait qu'il va, il n'a jamais, que je ne vais jamais lui arriver. Pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, il disait.
Ouais. Amen.
Pourquoi ce matin? Deuxième élément. C'est le potentiel. Viens pour le potentiel. Dire encore, c'est le potentiel.
Le potentiel.
Le potentiel ici, également, est lié à ta source. Un homme qui sait d'où il vient saura également son potentiel. Qu'est-ce que c'est que le potentiel? On définit le potentiel comme étant la capacité, une capacité qu'un homme a, mais qu'il n'a pas encore utilisée. C'est-à-dire, ton potentiel, c'est ce que tu es, que tu n'as pas encore manifesté. Donc, ce que tu as exprimé maintenant là derrière, sur ce qui est sur le point de venir. Mais pour savoir qu'est-ce que je porte, il est important de comprendre d'où je viens. Regardez, si par exemple, je veux savoir. Est-ce que cette chaise-là est solide? Je vais voir le menuisier qui a fabriqué la chaise. Je lui dis, c'est quelle boîte tu as utilisé? Il me dit, viens, on va à la forêt. Et puis on arrive dans la forêt, il me dit, tu vois ça? On appelle ça Iroko. Quand il me montre le bois Iroko, je ne teste plus. Je ne teste plus le fauteuil. Je dis, non, parfait. Ça, c'est là encore plus 10 ans. Pourquoi? Parce que Iroko, c'est bon bois. Mais s'il me montre Acacia, je me dis, ah, quand tu t'assois, j'ai dit, moi, parce que quand tu t'assois, assois-toi doucement, hein, tu vas tomber. Mais qu'est-ce qui fait que je parle comme ça maintenant, pour l'instant, je fais attention à tout ça? C'est parce que j'ai vu. Malheureusement, je dis, beaucoup de gens ne savent même pas. Satan les malmène comme ça, ils se promènent, Satan joue avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas d'où ils viennent. C'est pourquoi je dis, ce que je te dis ce matin-là, ce n'est pas juste des paroles que j'ai envie de te dire. Ça, là, tu peux le savoir même. Mais je te dis ça avec mon cœur pour que ça rentre dans ton esprit et que ça fasse peur avec toi. J'ai dit, tu viens de quelque part. C'est comme quand ton père est riche. Ton père est riche. Quand tu te comportes, frère, le fils de commissaire ici à Abidjan ou bien du général, c'est pas n'importe qui dans la ville. Il peut quand même rouler sans assurance, sans grande inquiétude. Hein? On l'arrête, il dit bon. Bambou, viens pour soi. Va, petit bambou. Il dit, ouais, papa, le gars même qui est arrêté là-bas, vraiment, c'est pas évident. C'est quand même le patron. Vous comprenez? C'est comme une fois, le commandant, il est où est-ce qu'il est là? Il m'avait donné sa voiture. Il m'a dit, j'ai dit quoi, je pensais que je lui donne ta voiture. Puis il a mis un casque de. Il a mis ça devant. Et puis j'ai pris la voiture, et puis je suis avec le papier policier qui m'a arrêté. J'ai fait. Je me suis mal garé, puis le policier m'a arrêté. Et quand il vient, il fait comme ça. Il a vu le casque, il m'a regardé. Il dit ça va? C'est quand même. Je dis non, c'est pas moi, c'est la voiture, c'est le commandant, c'est ma voiture. Parce que j'ai vu qu'il paniquait un peu, il a dit. Fais attention à la voiture commandant, hein! Non, je lui ai dit ça, il arrive. Alléluia. tu viens là est très important. Dans l'attitude que tu as, beaucoup de chrétiens ne savent pas, n'ont pas cette prise de conscience là qu'ils sont sortis réellement de Dieu. Et quand on est sorti de Dieu, ce n'est pas une petite affaire. Tu es ton père. Quand ton père est grand, tu es fier de lui. Quand tu parles de lui, c'est mon papa. Oui, Dieu est avec toi. Tu es sorti de lui. Tu es son fils. Tu es sa fille. Dis amen. Et par cette origine, tu veux pouvoir savoir quelle est ta force. Regardez ici. Les néons que vous voyez là, ces petits trucs là, ils sont rien du tout. Ça là, si on enlève ça tout de suite ici, il dit à pasteur, enlève-moi ça. On peut jouer au football avec lui. Taper avec le pied. Il n'y a rien du tout, hein. Mais là où il est maintenant, tu joues avec lui, tu meurs maintenant et tu vas vers le Seigneur. Pourquoi? Ce n'est pas lui, c'est ce à quoi il est attaché. Frère, salut, c'est ce qui est derrière toi là qui est la chose. Les gens ne savent pas ce qui est derrière toi. Dis avec moi. Alléluia! Alléluia! Il y a quelque chose. Et la chose qui est derrière toi, c'est ce qui fait ta force. Tu n'es pas lié à n'importe qui. Tu es lié à Dieu. Celui qui joue avec toi, il joue avec Dieu. Et comme on ne peut pas jouer avec Dieu, ne permet pas à ce qu'un homme joue avec toi. Est-ce que tu peux dire amen? Alléluia! 2011. Marche la tête haute. Ne permet pas à quelqu'un de te rabaisser pour te dire n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. La gloire de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu en toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Dieu avec toi! Il faut l'accepter. Et tu sais, ça n'a rien à voir avec ta taille, ce que tu es maintenant. Frère, c'est rien du tout. Tu es un homme dangereux. Il faut en être conscient. Regarde ton frère. Dis-le, je te respecte. Il y a des gars, il dit, moi, je te respecte. Pour Paris, c'est toi, on respecte. Tu es quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. La vie, vous savez, la vie est. Non, la vie est dangereuse. La vie a malmené certaines personnes. Leur a imposé l'identité qu'ils n'ont pas. La vie les a tellement caricaturés. Aujourd'hui, quand tu les vois, ils marchent comme des zombies. Et quand ça, je l'ai vu fort de personne, ça te marche même pas. Vraiment sûr. Il marche. Et il marche. Qui n'est pas normal. Tu le crois venir, non. Allez, Satan. Satan l'a malmené. Non, j'ai eu pitié du monsieur, je l'ai regardé comme ça. Un prince et roi. Marche la tête haute.
Amen.
N'aie pas peur. Dis à ton frère, je n'ai pas peur. Tu es avec toi, tu es le potentiel. Et le potentiel, c'est ce que tu n'as pas encore fait. Ça veut dire quoi? Ce que tu vois maintenant dans ta vie, là, c'est rien. L'argent que tu as maintenant n'est rien. Je te dis, l'argent que tu as maintenant n'est rien. Dis amen. Tu vas t'en donner encore. Le potentiel, c'est ce que tu n'as pas encore manifesté. Oui, cette beauté que tu as là n'est rien encore. Dis amen. Tu ne vieilliras pas. Au fur et à mesure que le temps va passer, tu seras plus beau. Amen. Tu sais pas avec Dieu, c'est de gloire à gloire.
Amen.
Dis amen.
Amen.
Tu sais, si tu commences à t'apprécier, il n'y a pas quelqu'un qui pourra t'apprécier.
Amen.
Tu es là, la vie t'a malmené. Je viens de te dire ce matin que tu es quelqu'un, que tu es un potentiel. Non pas parce que j'ai envie de te dire, mais à cause d'où tu viens. Où tu viens, c'est trop fort. Tu es attaché à Dieu, le Créateur. Tu es sorti de lui. Et parce que tu es sorti de lui, alors tu vaux quelque chose. Comme ce néant, il vaut par le pouvoir qui est derrière. Toute personne qui te touche, il sera brûlé. C'est pourquoi quand quelqu'un te prouve, il faut demander pardon. Toi, commence à demander pardon. Et toi qui as raison, commence à demander pardon.
Amen.
Ne sois pas prompt à réagir. Si tu réagis, toi, tu es les gens très vite.
Amen.
Donc je te dis la vérité. Un vrai enfant de Dieu, quand il se fâche et que véritablement, il sait qui il est, il cause des dégâts. Dieu est avec toi.
Amen.
Tu as du potentiel.
Amen.
Acclame Jésus. Frère, je dis en Côte d'Ivoire ici, je le dis, moi je le dis, de cette chair,
te parle de la part du Seigneur, ici dans ce pays, la Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, de l'Ouest, en Afrique ici, tu vas entendre parler de ABMC. Tu vas entendre qu'il y a une église qui a rempli la Côte d'Ivoire, qui fait des espoirs et qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes issus de cette église, des puissants hommes d'affaires, des milliardaires, des gens qui pètent dans la nation. C'est possible. Telle est notre destinée. On n'a pas de choix. Tu sais, à un moment donné, tu assumes ton identité. Si tu ne l'assumes pas, quelqu'un d'autre va l'assumer à ta place. Ça, c'est Satan qui fait ça. Dieu, il est très fort. Tu ne veux pas assumer, quelqu'un d'autre va faire ça tout de suite pour toi. Et tu vas même constater. Je dis, assume ton identité. N'aie pas peur. Prends ta place. Le fils de Dieu. Satan est menteur. C'est pourquoi quand tu fais tes calculs là, pourquoi calculer la crise ivoirienne? Laisse crise. Dieu bénit dans la crise. Et tu sais, il va te bénir dans la crise pour montrer aux gens que lui, il bénit dans la crise. Parce que c'est trop facile si tu es béni quand tout va bien. Mais c'est ces moments-là dans lesquels nous sommes là, sont des moments propices pour que Dieu révèle sa gloire. Parce qu'il va t'élever tellement que Dieu te attendez. C'est une affaire où on ne voit pas clair, là toi tu vois clair. Mais si tu te limites à cette crise, si tu limites tes projets, tu les arrêtes, tu les bloques, parce qu'on ne sait pas, il y a ça, tu vois pas ce qui va arriver. Quand le figuier s'est présenté devant Jésus, sans fruit, il a montré des feuilles. Ça, c'est la limite. Jésus a un besoin et le figuier lui présente des feuilles. C'est une façon de lui dire, je ne suis pas capable de satisfaire tes besoins. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus ne s'est pas arrêté devant le figuier pour pleurer. Il y a beaucoup de gens, c'est des situations qui se présentent à eux qui les limitent. Quand tu acceptes une situation de limite, la situation de limite devient ta limite. Tu acceptes que le pays est bloqué, donc rien ne marche. Si tu acceptes ça, c'est ta vie qui est bloquée et rien ne marche là. Tu acceptes que bon, vraiment, la situation est telle que bon, on est obligé d'être comme ça. C'est ce qui va arriver à ta vie. Satan veut toujours t'imposer une limite de l'extérieur. Parce qu'il sait qui tu es. Donc il va venir, la personne dit que tu comptes pour te donner l'argent, pas te dire, ah, tu m'as donné 10 millions, mais il y a 35 000. Si tu as accepté les 35 000, ça devient ta limite. Jésus a fait quoi? Jésus n'a pas regardé, Jésus a dit quoi? Moi j'ai un besoin et toi tu es capable de satisfaire mon besoin. Je ne permettrai pas à ce que ta limite devienne ma limite. Jésus a contourné la limite en faisant quoi? Il a monté son niveau dans la foi. Tu sais, parce que le problème était naturel, était physique. J'ai un feu, c'est physique. Il y a un figuier qui est là-bas qui a des feux, donc il doit avoir des feux. Ok, alors prends. Il arrive, le figuier dit, bon voilà, feuille. Il n'y a pas rien. Jésus n'a pas pleuré. Il a contourné le figuier. Jésus savait qu'il n'est pas seulement un homme naturel. Et que quand dans le naturel tu rencontres des obstacles, tu as une deuxième voie d'échappatoire. Tu bascules dans ta dimension spirituelle et tu contournes l'obstacle et puis tu continues ton chemin. Donc, il va dire en vérité, je vous le dis. Ça, il entre dans la forme comme ça. Et il passe le niveau. Quiconque dit. Et il commence par dire d'abord, ayez la foi de Dieu. Mais quand il dit ayez la foi de Dieu, ça veut dire gardez votre dimension spirituelle. Vous êtes d'abord sorti de Dieu.
Amen.
Et contourne la situation. Il maudit le figuier pour montrer aux gens que je ne suis pas limité à quelque chose de naturel. Et que quelle que soit la chose que Satan met devant moi comme barrière, je peux monter dans ma dimension spirituelle et puis anéantir ça parce que c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Donc, détruire le figuier, montre aux gens comment on opère quand on est face à des obstacles. C'est un mot d'opératoire qui l'a produit.
Il dit, rien ne peut t'arrêter.
Je dis, rien ne peut t'arrêter.
Ça vient sur ce plan comme cette montagne. Tu te lèves. Et puis tu contournes la montagne. Tu dis, en vérité, je vous le dis, ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit et croit, il le verra. Et puis tu pars. Tu sautes la chose. Dieu est avec vous. Je vous assure que Dieu est sérieusement avec vous. Vous allez accomplir ce pour quoi vous êtes venu sur terre. Rien ne vous empêchera de réussir. Et tu sais, à un moment donné, quand tu as tellement accepté cette idée-là, l'éventualité de l'échec te quitte.
Amen.
Échouer, même quand quelque chose ne marche pas, ce n'est pas un échec pour toi, ça devient une expérience. Parce que pour toi, il n'y a pas échec. On fait des expériences pour toujours aller vers le succès. Troisième point, on va terminer. Le principe. Tout le monde aime le principe. Qu'est-ce que c'est que le principe? Le principe est un ensemble de valeurs destinées à nous protéger afin de nous conduire vers notre but. Le principe est un ensemble de valeurs destinées à te protéger ou à baliser ton chemin dans ta marche vers l'accomplissement de ta destinée. Également, le principe ici est lié à ta source. Vous voyez, je fais tout source. Source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que un homme qui ne sait pas d'où il vient va forcément échouer dans le sens où le principe valide ensemble de valeurs destinées à te protéger afin que tu accomplisses le but. Maintenant, ne sachant pas d'où tu viens, tu ne pourras pas avoir les valeurs qu'il faut. Parce que les valeurs sont un exemple encore sur le bois. On prend la chaise. Si le menuisier m'a dit, ah, ça c'est du bois hiroko. Mais quand il t'a dit c'est du bois hiroko là, quand il va couper le bois, les vrais menuisiers vont te dire, quand tu vas aller travailler le bois pour faire la chaise, fais très attention. Le bois hiroko ne se travaille pas comme le bois jaune. Dans le bois hiroko, tu peux mettre la pointe tout droit. Dans le bois jaune, quand tu veux mettre la pointe, incline un peu, sinon tu fends le bois. Donc je veux dire, à chaque, en fonction de l'origine du bois, on peut te dire comment travailler le bois pour tirer le meilleur du bois.
Amen.
Si tu ne sais pas travailler le bois, étant donné que le bois n'a pas une texture qui est solide, donc quand tu vas taper ou mettre la pointe, fais attention parce que sinon ça fend. Mais dans le cas de l'hiroko, tu peux te dire non, ça, même si tu mets même un clou comme ça ne fond pas parce que c'est solide, la texture est différente. Donc, en fonction de l'origine de la chose, il y a des principes attachés à la chose ou à l'utilisation de la chose pour tirer le meilleur. C'est trop compliqué. Donc, ici, nous sortons de Dieu. Donc, parce que nous sortons de Dieu, pour que nous puissions maximiser dans ce que Dieu aime et ce qu'il attend de nous, il est important de savoir les valeurs attachées à notre source. C'est que tu peux parler à quelqu'un pendant une heure, tu peux savoir quelles sont ses valeurs. Et en fonction de ses valeurs, tu peux savoir quelle est sa source. Amen. Et là, c'est chrétien. Mais en réalité, chrétien, ce n'est pas juste pour dire. Mais quand on parle avec toi, quand on te voit faire par les valeurs que tu chéris, on peut savoir de quelle source tu viens.
Amen.
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 Pareil. Pourquoi ici, les principes sont importants pour 2011? Parce que tu sais, tu ne peux pas réellement réussir si tu ne tiens pas compte des valeurs du principe. Beaucoup de gens privilégient le pouvoir. Le pouvoir est une bonne chose. Mais le principe est important pour les valeurs. Regardez par exemple. Quand je parle de valeurs ici, là, je parle ensemble de valeurs destinées à te protéger.
Ici, c'est lié au caractère, mais c'est la même chose. Tout le monde dit avec moi caractère. Et je vous ai dit ici que le caractère également est quelque chose de, qu'on peut définir par un certain nombre de points. Un caractère est fixe. Dis avec moi fixe.
Fixe.
Dis avec moi fixe.
Fixe.
C'est-à-dire le caractère, le mot caractère, c'est un peu comme les lettres. Le caractère, tu vois, on le but, il y a le B, il y a le U, il y a le T. Ça, ce sont des caractères. Il y a différents types de caractères. Mais ouais, le caractère n'est pas variable. C'est des choses qui existent, c'est là, ça ne change pas. Donc, le caractère est quelque chose de fixe, est quelque chose de prévisible, est quelque chose de stable, est quelque chose de figé, et le caractère est quelque chose d'image. C'est-à-dire, c'est une image. Caractère, image, fixe, figé, stable, fixe. Par exemple, je ne sais pas quel exemple te donner, on peut te donner un statut quelque part. La statue peut être là. 1000 ans, tu vas, tu reviens, la statue est là. C'est un peu comme quand tu vas à Tour Eiffel, par exemple. Tous ceux qui ont fait la France dans leur vie, là, ils ont moins photo où il y a Tour Eiffel derrière eux. Dans tous les albums du monde. J'ai vu la Tour Eiffel, elle est. Ça dit, tu pars dans tous les pays au monde, tu vas trouver photo de Tour Eiffel. C'est fixe, elle est là. Les milliers d'années, les gens ont fait, ils sont morts, ils sont partis, d'autres font encore. Mais c'est la même image, c'est fixe. Quelque chose de stable. C'est ça un caractère. Donc, le caractère est stable. Et Dieu dit, pour pouvoir réussir, il est important de tenir compte du principe du caractère. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas stables. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous êtes déjà instable, il faut sortir de ça. C'est-à-dire que votre parole et vos actes ne coïncident jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour mettre. On ne peut pas poser ta parole sur tes actes. Il va y avoir un déphasage. C'est pas bon. Il faut que tes paroles et tes actes arrivent à. Quand on les met ensemble là, ils arrivent. Ça rentre quoi. Ça s'harmonise. Sinon, tu n'es pas un homme. On ne peut pas compter sur ta parole. Ce n'est pas bon. Et ça, c'est un conseil que je veux donner aux chrétiens en général. Nous jouons trop avec la parole donnée. Les gens donnent la parole et puis ils s'en foutent. Je vais faire, ils ne font pas. Je vais faire comme ça, ils ne font pas. Et c'est des choses qu'on peut jouer avec. Mais ce n'est pas des choses, on ne joue pas avec. Dieu n'est pas comme ça. C'est quelque chose qu'on va estimer ça dans l'église. Et je vous assure que si on enlève ça dans l'église, l'église va monter en niveau. Ils font des promesses, ils ne tiennent pas. Ils viennent et disent bon, je vais faire ça pour Dieu, ils ne font pas. Ils décident quelque chose, ils ne font pas. Eux-mêmes, ils parlent, ils ne font jamais. Je viens à midi, ils viennent à 14h. Et tout est mélangé. Et je vous assure, 2011 doit marquer la fin de ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois être un homme, quand tu as dit A, l'acte qui suit là, et puis le A, on peut mettre ça ensemble, c'est pareil.
Amen.
Le principe protège. Là où il n'y a pas de principe, c'est le désordre. Et là où il y a le désordre, quel que soit le potentiel que tu as, tu vas déraper. Le principe protège. Et la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est quoi? Ce n'est pas le pouvoir. Qui vous a dit le pouvoir? La première chose que Dieu a donné à l'homme, c'est son image, son caractère. Dieu fit l'homme à son image d'abord, point, caractère. C'est pourquoi le caractère est ce qui sous-tend tout leadership. Tout véritable leadership sans fondement caractériel est un faux leadership.
Amen.
En quoi? Tout chrétien ici-là est destiné à être leader. Quand Dieu dit tu seras la tête et non la queue, là, ce n'est pas un verset pour d'autres. Tu seras la tête parce qu'il y a des domaines dans ta vie où Dieu t'a destiné à être la tête. Personne ne peut mettre la tête là-bas, c'est toi. C'est que chacun a un niveau, même si c'est un petit truc, il y a quelque part où tu seras le patron. Où personne ne peut t'égaler. Il y a quelque chose que Dieu a destiné où tu dois être la tête. Tout le monde ne devient pas PDG. Tout le monde ne devient pas pasteur principal de l'église. Mais tout le monde peut avoir un domaine dans sa vie où il est leader.
Amen.
Mais oui, moi je peux venir
parle avec toi. Il y a des domaines où tu ne peux même pas discuter avec toi. Dans le commerce, dans les trucs, je ne vais pas venir discuter avec toi. C'est un pasteur qui a besoin de conseiller. Un pasteur qui n'écoute pas, c'est un pasteur qui est, je dirais pas bête, mais bon, il n'est pas loin. Tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas être dépositaire de tout. Tu as ton domaine. Le monsieur qui est assis à son domaine, quand il vient te dire, ah, électricité là, voilà. Si tu as étudié là-bas, tu peux parler avec lui. Tu n'as pas étudié, tu sais rien, tu laisses tomber. Le gars, il te dit ce qu'il y a à faire. Chacun a un domaine de leadership. Et pour pouvoir réussir ce domaine de leadership là, tu as besoin de caractère.
Amen.
Dis caractère.
Amen.
Le fondement du leadership, c'est le caractère. Ça veut dire la stabilité. Un homme qui est stable. Pardon. Donc, aussi qui. Les hommes n'aiment pas les sécurités. En général, les hommes n'aiment pas les sécurités. Tu vas quelque part, le gars, aujourd'hui, il dit bon, aujourd'hui, on se consulte. Demain, il dit non, on est à Congo. Après, lui, il ne sait pas où il va. Après, si je viens ici, tu crois dimanche, je vous dis vraiment, les frères, je ne sais plus où on va. Peut-être que la semaine prochaine, je ne sais pas, on va aller faire le culte sur la route de Passat. Les gens vont dire, ah, le Passat devient bizarre. C'est comme ils ont fait le portail à la télé. Le monsieur, il y a deux personnes dans son église. J'ai dit, ma famille, c'est quoi ça? Deux ou trois personnes. C'est ce qu'il a annoncé. Il annonce que le dimanche qui suit, Jésus a dit, vous attraperez les serpents et ils ne vous feront aucun mal. Donc, il dit, dimanche, il va envoyer les serpents dans l'église, tout le monde va attraper et puis ça va bien faire.
Tu penses que c'est une vraie histoire?
Au fait, qui va venir à l'église? Il y a un de ses collaborateurs qui est mort. Ils font le culte comme ça, ils envoient les serpents venimeux, puis ils sont là. Et puis, prie, chacun vient, puis à toi, puis dit oui, j'ai déjà dit, si on attrape les serpents, on ne va pas mourir. Les manchés de serpents ne nous feront rien. Ça a piqué, il le fait asseoir. Au nom de Jésus, le gars, il s'est étouffé, il est mort. Et lui, il dit non, jusque-là, il attend qu'il ne meure pas. Qu'il a déjà subi deux morsures. J'ai dit, mon frère, tu n'as pas encore eu de bonnes morsures. Le lendemain, là, il a annoncé son truc. Hein. L'église est vide. Il était devant les chaises vides. Et puis, le journaliste s'interroge. Il dit, mais je vous assure, on est fou. Il était là, les chaises sont vides depuis pas seul. Il dit, oui, il prêchait. Il n'y a personne là. Après, si on est venu, il dit non, qu'il a la foi que les gens vont venir. Ils vont finir par comprendre que la Bible, il racontait des histoires. Vous comprenez? Donc, les hommes n'aiment pas l'insécurité. Donc, là où ils savent qu'ils vont, ils ne sont pas bénis, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que, ils vont plus aller là-bas. Frère, je vous assure qu'on va quelque part. Et Dieu veut que tu sois sûr que là où il t'envoie là, que les choses puissent arriver. Et 2011 est une année où Dieu va élever ton niveau. Va te donner de la supériorité dans ce que tu entreprends. Dis amen. Mais il faut que également ton caractère soit un caractère stable. Pas quelqu'un qui ne sait pas où il va, qui saute ici, qui saute là, on ne peut même pas le saisir. On doit pouvoir te faire confiance. Vous dites, je sais que je vais à l'église, je vais trouver telle personne, je pourrai parler avec elle. Parce qu'un homme qu'on n'arrive pas à saisir, parce qu'il est toujours instable dans ses émotions, est un homme qui ne peut pas marcher avec Dieu.
Amen.
Je vous assure, Dieu n'aime pas les hommes instables. Ça veut dire que ton instabilité, un bon instrument d'action, ça va entrer dans ta santé. Tu seras un homme malade aujourd'hui, demain après ton bonne santé. Mais quand tu es un homme stable, la stabilité entre dans tous les domaines de ta vie, même sur le plan physique, tu ne tombes jamais malade. Du 1er au 31 décembre qui suit, tu es toujours au rendez-vous.
Amen.
Dieu peut compter sur toi. Est-ce que tu peux dire, je suis un homme de caractère à partir d'aujourd'hui? Le principe protège. Dis
amen.
Le principe protège. La domination n'est pas venue avant le caractère. La première chose que Dieu a donné, c'est le caractère. Le caractère régule le pouvoir. Tiens, pour le caractère régule le pouvoir. Si tu veux connaître vraiment un homme, tu veux connaître un homme
pour connaître réellement qui un homme est. Pour lui donner un peu d'âge. Son comportement a sorti.
Tu sais, quand un homme n'a pas l'argent, on ne le connaît pas.
C'est pas tous ces gens, tous ces saints en apparence là. C'est saints.
Les médecins disent quelque chose, docteur. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est ça, non? Sujet apparemment saint.
Apparemment saint.
Alléluia. C'est très important. Hein? Si on te donne 100 millions maintenant de dollars, tu vas changer de domicile d'abord. C'est là que tu as dit que là où tu habites, il y a trop de moustiques. Il y a longtemps que tu es là. Tout à coup, tu te rends compte qu'il y a des moustiques. Et que les gens du quartier ne sont pas déjà sérieux. Ton caractère va sortir. Parce que je vous dis, beaucoup de gens sont assis dans nos églises. C'est facile de dire à un leader ou quelqu'un qui est dans une position. Oh, il va trop, pourquoi il fait ça? Tu sais, quand tu es dans une position élevée, naturellement tu as vu. Donc c'est plus facile pour les gens de savoir tes défauts, tes forces, éventuellement tes faiblesses. Mais quand tu es dans une position et que Dieu te donne un petit pouvoir, c'est là où on sait qui tu es. Dieu lui pose à Dieu de l'argent pour voir qui tu es. Moi, je ne suis pas venu à l'église un peu. C'est qu'il faut respecter les gens qui ont de l'argent et qui viennent à l'église. Les gens qui ont de l'argent et qui aiment le Seigneur. Les gens, parce que l'argent est dangereux. L'argent parle. L'argent peut faire des propositions. L'argent ne va pas te laisser dormir. L'argent va te dire d'aller en mission pour le dépenser, d'aller à l'hôtel. L'argent va te faire des propositions. Je vous dis, il n'est pas facile d'avoir l'argent et d'être sérieux, d'être à côté d'une seule femme. Et puis de rien faire, frère, l'argent, il faut l'avoir d'abord. Ton caractère va sortir. C'est pourquoi dès maintenant, il faut travailler sur ce caractère-là pour qu'il soit déjà beau. De telle sorte que quand l'argent vient, ça amplifie le bon.
Amen.
On dit, mais le gars, il ne fait que faire du bien, il fait du bien, il fait du bien. C'est un monsieur bien. Oui. Alléluia. Il faut travailler sur ton caractère. Tu vas voir qu'en 2011, tu réussiras tous tes projets.
Amen.
Dis amen.
Amen.
La réputation, c'est ce que tu es en public. Et le caractère, c'est ce que tu es en privé. Tout le monde dit, aujourd'hui, les gens préfèrent la réputation au caractère. Réputation, c'est ce que tout le monde sait de toi. Caractère, c'est ce que tu es réellement, que personne ne sait. Mais tu dois faire quoi? Chercher à harmoniser, remonter le caractère de telle sorte que le caractère et la réputation puissent se ressembler.
Amen.
Ce que tu es, quand on check, que ce soit toi. Mais que tu sois pas, oh, tant pis. Maintenant, quoi ça là, c'est diable à la maison. À l'église, tu es l'ange parfait. Et à la maison, tu es le diable.
Le diable parfait.
Alléluia. Que tu ne sois pas, comme quelqu'un disait hier, que tu ne sois pas Moussa à la maison et Moïse. Moïse. Mais moi, je vais prendre Moïse, c'est un peu Moïse. Parce que là, il y a Pierre. Donc, le caractère et la réputation, quand ils deviennent un, c'est là où on dit ça, c'est dans les têtes.
Amen.
Alléluia. Et vous allez voir que si vous suivez ces choses, donc ces trois points sont essentiels. De ta source, on peut savoir tes valeurs.
Parce que Dieu également, pour te parfaire, a établi des valeurs pour sécuriser et baliser ton chemin. Et ce sont ces valeurs-là qui établissent pour nous les principes. Et nous sommes chrétiens, on doit respecter les principes. Et je vous dis, les principes sont têtus. Il y a des gens qui disent, non, moi je suis chrétien, mais moi je te dis, c'est ça que je pense. Il ne faut plus raisonner comme ça. Tu sais, on ne peut pas être chrétien et penser autre chose. Quand quelqu'un te dit la Bible dit ça, il faut t'humilier pour accepter. Parce que tu parles, non, dans tous les cas, oui, la Bible dit, mais moi, j'étais dit, moi. Tu t'acceptes. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne t'en sortiras pas. Hein. Parce que les trois sont liés. On a vu quoi? Le but. On a vu le potentiel. On a vu le principe. Dieu veut que tu atteignes un objectif très clair cette année. Dieu a positionné quelque chose en toi qui doit se manifester, que les gens n'ont même pas encore vu et qui va se manifester. Mais il y a le principe qui sécurise et qui balise. Ça veut dire quoi? Le principe est ce qui te montre la voie. Si tu sors du principe, tu entres dans une autre voie qui va t'accomplir autre chose que ce que Dieu veut que tu accomplisses. C'est pourquoi on ne peut pas mettre le principe à côté pour dire oui, dans tous les cas, moi, je fais ça, mais ça là, dans tous les cas, laisse-moi comme ça. Tu ne peux pas être comme tu es. Dieu ne t'a pas créé tel que tu es. Ah, moi je suis nerveux, c'est comme ça que je suis. Laisse-moi. On ne peut pas te laisser. Donc, on va parler jusqu'à ce que tu sors.
Amen.
Dis amen, dis amen.
Amen.
Oui, tu n'es pas comme ça. Parce que beaucoup de gens, à un moment donné, et ils ont demandé, bon, et pour le mari ou la femme a accepté pour dire, bon, frère, le gars, il est comme ça. Lui, là, il ne change jamais. C'est pas vrai. Il n'y a pas un homme qui ne peut pas changer. Tout le monde peut changer. Et on doit faire des efforts à tous les niveaux pour prier Dieu, pour dire Seigneur. Parce que je vous assure que l'habitude est têtue. Hein. Quand tu prends de mauvaises habitudes, déraciner ça. Un homme qui n'aime pas se laver. Les gars me disent c'est bon, les gars me font parler devant ici, ils sont pas en train de là. Mon frère, il va se laver pendant une semaine, il va revenir. C'est pas facile. Il faut que Dieu l'aide. Amen. C'est pourquoi vous voyez, maintenant là, ce que tu n'as pas encore comme habitude, il ne faut pas prendre.
Amen.
Gère un peu là, et puis détruis ça. Il ne faut pas en ajouter. Parce que une habitude, quand ça rentre, ça peut faire 10 ans, 20 ans de vie. Et là, c'est quand tu es décidé à regarder à ça jusqu'à ce que ça parte. Les hommes changent très peu dans le temps. Non, regardez, si tu veux prendre une chaîne de télévision, regarde l'image de quelqu'un qui a parlé il y a 15 ans, 20 ans après. Quand tu regardes, tu vois que tu te dis, le gars n'a pas tout changé. C'est la même façon dont il parle, c'est la même idée. Les gens changent très peu sur le long terme. Je vous assure. Et ça, c'est l'une des difficultés que le Seigneur a dans l'église. Parce que les gens ne changent pas facilement de comportement. Et pourquoi nous, les pasteurs sont là, tout le monde en parle tous les jours. Et tu as dit non, mais pas, on parle tous les jours et on va parler jusqu'à ce que Jésus revienne. Et il faut qu'il y ait un changement. 2011 est ton année. 2011 est ton année. Je te donne le chemin. Si tu suis tout ce qu'on t'a dit, tu réussiras ton année. Et un vrai succès. Je ne veux pas que ce soit un succès matériel, mais que le succès englobe ta personnalité. Parce que Dieu peut te donner beaucoup d'argent, tu as réussi et tu as échoué en même temps. Parce que réussir en ayant beaucoup et échouer en tant qu'être humain personnel, ça ne plaît pas à Dieu. Tu peux plaire à Dieu de voir qu'il t'a donné 10 4 4, il t'a donné des millions et toi-même là, tu es disqualifié. C'est pourquoi la vie, je dois faire en sorte que, faisant le travail que je fais, que je veille sur moi-même afin de ne pas être disqualifié, parce que je vous assure, il y a une éventualité qu'on soit nous-mêmes disqualifié. Donc, quelles que soient les faiblesses qu'on peut avoir, on doit quand même toujours prier. Et le vrai problème, c'est quoi? Si jusque-là, tu pries encore pour le même problème, c'est-à-dire que le Saint-Esprit t'a pas encore lâché. persévère. Continue. Doucement, doucement, Dieu va faire. Parce que Dieu est bon. Est-ce qu'on peut dire avec ça? Ne sois pas désespéré à un point où tu dis, bon, comme j'ai tout fait, je ne peux pas, je laisse. Ne laisse pas. Relève-toi. Essuie la poussière et repars. Essaie encore. Mais ne t'assois pas dans le livre, on a tout fait, on ne peut plus rien faire. Bon, on est assis dedans. Donc tu ne peux pas t'asseoir dedans.
Amen.
Parce que même si tu t'assois dedans, le cinéma va tuer ta conscience.
Amen.
Mais si tu as encore la conscience, ça veut dire que Dieu est encore avec toi. Amen. Et que tu peux toujours repartir à zéro.
Amen.
Parce que Dieu, hier est passé. Demain est un jour nouveau. Et nous sommes déjà en 2011. Il y a des gens qui vont trouver travail maintenant. Il y a des gens qui vont avoir un mari maintenant. Il y a des gens qui vont réussir maintenant. Dieu a tellement de choses qu'il veut faire maintenant. On ne va pas attendre 31 décembre pour dire, Seigneur, je ne l'ai pas encore vu. C'est maintenant qu'il faut s'inquiéter, qu'il faut voir, qu'il faut planifier. Il faut planifier. Attendez-vous à Dieu. Il va agir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se lever et prier. Je veux que tu parles à Jésus ce matin. Vas-y, élève la voix. Merci Seigneur.